Chapitre 3. Une partie des rayons plaqués contre les murs de son cabinet orange et bleu était exclusivement couverte par des ouvrages latins, par ceux que les intelligences, qu'ont domestiqué les déplorables leçons ressassées dans les Sorbonnes, désignent sous le nom générique la décadence. En effet, la langue latine, telle qu'elle fut pratiquée à cette époque, que les professeurs s'obstinent encore à appeler le grand siècle, ne l'incitait guère. Cette langue restreinte, aux tournures comptées, presque invariable, sans souplesse de syntaxe, sans couleur ni nuance, cette langue raclée sur toutes les coutures, émondée des expressions rocailleuses, mais parfois imagées des âges précédents, pouvait à la rigueur énoncer les majestueuses rengaines, les vagues lieux communs rabâchés par les rhéteurs et par les poètes, mais elle dégageait une telle incuriosité, un tel ennui, qu'il fallait dans les études linguistiques arriver au style français du siècle de Louis XIV pour rencontrer une aussi volontairement débilitée, aussi solennellement harassante et grise. Entre autres le doux Virgile, celui que les pions surnomment le cygne de Menton, sans doute parce qu'il n'est pas né dans cette ville, lui apparaissait ainsi que l'un des plus terribles cuistres, l'un des plus sinistres raseurs que l'Antiquité ait jamais produit. Ses bergers lavés et pomponnés, se déchargeant à tour de rôle sur la tête de plein pot de verre sentencieux et glacé, son Orphée qu'il compare à un rossignol en larmes, son Aristée qui pleurniche à propos d'abeilles, son aîné, ce personnage indécis et fluent, qui se promène pareil à une ombre chinoise avec des gestes en bois derrière le transparent mal assujetti et mal huilé du poème, l'exaspérait. Il eut bien accepté les fastidieuses balivernes que ces marionnettes échangent entre elles à la cantonade. Il eut accepté encore les impudents emprunts faits à Homère, à Théocrite, à Ennius, à Lucrèce, le simple vol que nous a révélé Macrobe du deuxième chant de l'Énéide, presque copié mot pour mot dans un poème de Pisandre, enfin toute l'inénarrable vacuité de ce tas de chants. Mais ce qui le répilait davantage, c'était la facture de ses hexamètres, sonnant le fer-blanc, le bidon creux, allongeant leur qualité de mots pesés au titre selon l'immuable ordonnance d'une parosodie pédante et sèche. C'était la contexture de ces vers râpeux et gourmés dans leur tenue officielle, dans leur basse révérence à la grammaire, de ces vers coupés à la mécanique par une imperturbable césure, tamponnée en queue, toujours de la même façon, par le choc d'un dactyle contre un spondé. Emprunté à la force perfectionnée de Catulle, cette invariable métrique, sans fantaisie, sans pitié, bourrée de mots inutiles, de remplissage de chevilles aux boucles identiques et prévues, cette misère de l'épithète homérique revenant sans cesse pour ne rien désigner, pour ne rien faire voir, tout cet indigent vocabulaire aux teintes insonores et plates le suppliciait. Il est juste d'ajouter que si son admiration pour Virgile était de plus modérée, et que si son attirance pour les claires éjections d'Ovide était des plus discrètes et des plus sourdes, son dégoût pour les grâces éléphantines d'Horace, pour le babillage de ce désespérant pateau qui minaude avec des gaudriels plâtrés de vieux clowns, était sans borne. En prose, la langue verbeuse, les métaphores redondantes, les digressions amphigouriques du pois chiche, ne le réalisaient pas davantage. La jactance de ses apostrophes, le flux de ses rengaines patriotiques, l'emphase de ses harangues, la pesante masse de son style, charnu, nourri, mais tourné à la graisse et privé de moelle et d'eau, les insupportables scories de ses longs adverbes ouvrant la phrase, les inaltérables formules de ses adipeuses périodes mal liées entre elles par le fil des conjonctions. Enfin, ces lassantes habitudes de tautologie ne le séduisaient guère. Et, pas beaucoup plus que Cicéron, César, réputé pour son laconisme, l'enthousiasmait, car l'excès contraire se montrait alors une avidité, une aridité de pète sec, une stérilité de memento, une constipation incroyable et indue. Sans doute, il ne trouvait pas tour, ni parmi ses écrivains, ni parmi ceux qui font cependant les délices des faux lettrés. Salluste, moins décoloré que les autres pourtant. Tite-Live, sentimental et pompeux. Sénèque, turgide et blafard. Suétone, lymphatique et larveux. Tacite, le plus nerveux dans sa concision apprêtée, mais le plus âpre, le plus musclé de tous. En poésie, Juvénal, malgré quelques vers durement bottés. Perse, malgré ses insinuations mystérieuses, le laissait froid. En négligeant Tibulle et Properce, Quintilien et Lépline, Stas, Martial de Bilibis, Terence, même et Plaute, dont le jargon plein de néologismes, de mots composés de diminutifs, pouvait lui plaire, mais dont le bas comique et le gros sel lui répugnaient, des Hyacinthes commençaient seulement à s'intéresser à la langue latine, avec Lucain, car elle était élargie, déjà plus expressive et moins chagrine. Cette armature travaillée, ces vers plaqués des mots, pavés de joaillerie, le captivaient. Mais cette préoccupation exclusive de la forme, ces sonorités de timbre, ces éclats de métal, ne lui masquaient pas entièrement le vide de la pensée, la boursouflure de ses ampoules, qui bossut la peau de la farsale. L'auteur qu'il aimait vraiment et qui lui faisait reléguer pour jamais hors de ses lectures les retentissantes adresses de Lucain, c'était Pétrone. Celui-là était un observateur perspicace, un délicat analyste, un merveilleux peintre. Tranquillement, sans parti pris, sans haine, il décrivait la vie journalière de Rome, racontait dans les alertes petits chapitres du Satyricon les mœurs de son époque. Notant à mesure les faits, les constatant dans une forme définitive, il déroulait la menue existence du peuple, ses épisodes, ses bestialités, ses rutes. Ici, c'est l'inspecteur des garnis qui vient demander le nom des voyageurs récemment entrés. Là, ce sont des lupanars où des gens rôdent autour de femmes nues, debout entre des écriteaux, tandis que par les portes mal fermées des chambres, l'on entrevoit les ébats des couples. Là encore, au travers des villas d'un luxe insolent, d'une démence de richesse et de faste, comme au travers des pauvres auberges qui se succèdent dans le livre, avec leurs lits de sangles défaits pleins de punaises, la société du temps s'agite. Un pur filou, tel qu'Asquilte et que Molpe, à la recherche d'une bonne aubaine, vieux incubes aux robes retroussées, aux joues plâtrées de blanc, de plomb et de rouge acacia, giton de 16 ans dodu et frisé, femme en proie aux attaques de l'hystérie, coureurs d'héritage offrant leurs garçons et leurs filles aux débauches détestateurs, tous courent le long des pages, discutent dans les rues, s'attouchent dans les bains, se rouent de coups, ainsi que dans une pantomime. Et cela racontait dans un style d'une verdeur étrange, d'une couleur précise, dans un style puisant à tous les dialectes, empruntant des expressions à toutes les langues charriées dans Rome, reculant toutes les limites, toutes les entraves du soi-disant grand siècle, faisant parler à chacun son idiome, aux affranchis sans éducation le latin populacier, l'argot de la rue, aux étrangers leur patois barbare, matinée d'Africains, de Syriens et de Grecs, aux pédants imbéciles, comme l'Agamemnon du livre, une rhétorique de mots postiches. Ces gens sont dessinés d'un trait, vautrés autour d'une table, échangeant d'insipides propos d'ivrogne, débitant de séniles maximes d'ineptes dictons, le mufle tourné vers le Trimalchio, qui se cure les dents, offre des pots de chambre à la société, l'entretien de la santé de ses entrailles, et vante en invitant ses convives à se mettre à l'aise. Ce roman réaliste, cette tranche découpée dans le vif de la vie romaine, sans préoccupation, quoi qu'on en puisse dire, de réforme et de satire, sans besoin de fin apprêtée de morale, cette histoire sans intrigue, sans action, mettant en scène les aventures de Gibier de Sodome, analysant avec une placide finesse les joies et les douleurs de ses amours et de ses couples, dépeignant en une langue splendidement orfèvre, sans que l'auteur se montre une seule fois, sans qu'il se livre à aucun commentaire, sans qu'il approuve ou maudisse les actes et les pensées de ses personnages, les vices d'une civilisation décrépite, d'un empire qui se fêle, poignait des esseintes, et il entrevoyait, dans le raffinement du style, dans l'acuité de l'observation, dans la fermeté de la méthode, le singulier rapprochement, de curieuses analogies avec les quelques romans français modernes qu'il supportait. À coup sûr, il regrettait amèrement le Stion et l'Albutia, ces deux ouvrages de Pétrone que mentionne Planciade Fulgence et qui sont à jamais perdus. Mais le bibliophile qui était en lui consolait le lettré, maniant avec des mains dévotes la superbe édition qu'il possédait du Satyricon, l'in-octavo portant le millésime 1585 et le nom de J. Douza à l'Ed. Parti de Pétrone, sa collection latine entrait dans le deuxième siècle de l'ère chrétienne, sautait le déclamateur Fronton au terme suranné, mal réparé, mal reverni, enjambait les nuits attiques d'Olugel, son disciple et ami, un esprit sagace et fureteur, mais un écrivain empêtré dans une glutineuse vase, et elle faisait halte devant Apulée, dont il gardait l'édition Princeps in Folio, imprimée en 1469 à Rome. Cet Africain le réjouissait. La langue latine battait le plein dans ses métamorphoses. Elle roulait des limons, des ovariers, accourus de toutes les provinces, et toutes se mêlaient, se confondaient en une teinte bizarre, exotique, presque neuve. Des maniérismes, des détails nouveaux de la société latine trouvaient à se mouler en des néologismes créés pour les besoins de la conversation dans un coin romain de l'Afrique. Puis sa jovialité d'homme évidemment gras, son exubérance méridionale amusait. Il apparaissait ainsi qu'un Salace et gai compère à côté des apologistes chrétiens qui vivaient au même siècle, le soporifique Minucius Félix, un pseudo-classique, écoulant dans son Octavius les émulsines encore épaissies de Cicéron, voire même Tertullien, qui concevait peut-être plus pour son édition de Halde que pour son œuvre même. Bien qu'il fût assez ferré sur la théologie, les disputes des montanistes contre l'Église catholique, les polémiques contre la gnose le laissaient froid. Aussi, et malgré la curiosité du style de Tertullien, un style concis, plein d'amphibologie, repose sur des participes, heurte par des oppositions, hérissées de jeux de mots et de pointes, bariolées de vocables triés dans la science juridique et dans la langue des pères de l'Église grecque, il n'ouvrait plus guère l'apologétique et le traité de la patience, et tout au plus lisait-il quelques pages du De Cultu Feminarum, où Tertullien objurgue les femmes de ne pas se parer de bijoux et d'étoffes précieuses, et leur défend l'usage des cosmétiques parce qu'ils essayent de corriger la nature et de l'embellir. Ces idées, diamétralement opposées aux siennes, le faisaient sourire. Puis le rôle joué par Tertullien dans son évêché de Carthage lui semblait subjectif, en rêverie douce, plus que ses œuvres en réalité, l'homme l'attirait. Il avait en effet vécu, dans les temps houleux, secoué par d'affreux troubles, sous Caracalla, sous Macrin, sous l'étonnant grand prêtre d'Émèse et Lagabale. Il préparait tranquillement ses sermons, ses écrits dogmatiques, ses plaidoyers, ses homélies, pendant que l'Empire romain branlait sur ses bases, que les folies de l'Asie, que les ordures du paganisme coulaient à plein bord. Il recommandait avec le plus grand sang-froid l'abstinence charnelle, la frugalité des repas, la sobriété de la toilette, alors que, marchant dans de la poudre d'argent et du sable d'or, la tête sainte d'une tiare, les vêtements brochés de pierreries, et la gabale travaillait au milieu de ses eunuques à des ouvrages de femmes, se faisait appeler impératrice et changeait toutes les nuits d'empereur, les lisant de préférence parmi les barbiers, les gars de sauce et les cochers de cirque. Cette antithèse le ravissait. Puis la langue latine, arrivée à sa maturité suprême sous Pétrone, allait commencer à se dissoudre. La littérature chrétienne prenait place, apportant avec des idées neuves, des mots nouveaux, des constructions inemployées, des verbes inconnus, des adjectifs au sens alambiqué et des mots abstraits rares jusqu'alors dans la langue romaine et dont Tertullien avait l'un des premiers adopté l'usage. Seulement, cette déliquescence continuée après la mort de Tertullien par son élève Saint-Cyprien, par Arnobe, par le pâteux Lactance, était sans attrait. C'était un faisandage incomplet et ralenti. C'était de gauche au retour aux emphases cicéroniennes, n'ayant pas encore ce fumet spécial qu'au IVe siècle, et surtout pendant les siècles qui vont suivre, l'odeur du christianisme donnera à la langue païenne, décomposée comme une venaison, s'émiettant en même temps que s'effritera la civilisation du vieux monde, en même temps que s'écrouleront, sous la poussée des barbares, les empires putréfiés par la sanie des siècles. Un seul poète chrétien, comme Modien de Gaza, représentait dans sa bibliothèque l'art de l'an III. Le Carmen Apologeticum, écrit dans 259, est un recueil d'instructions, tortillées en acrostiches, dans des hexamètres populaires, césurés selon le mode du vers héroïque, composés sans égard à la quantité et à l'hiatus, et souvent accompagnés de rimes, telles que le latin d'église en fournira plus tard de nombreux exemples. Ces vers tendus, sombres, sentant le fauve, pleins de termes de langage usuel, de mots au sens primitif détournés, le requérait, l'intéressait même davantage que le style pourtant blêté et déjà verdi des historiens Ammien Marcellin et Aurelius Victor, de l'épistolier Symmaque et du compilateur et grammairien Macrobe. Il les préférait même à ces véritables vers scandés, à cette langue tachetée et superbe que parlèrent Claudien, Rutilus et Ozone. Ceux-là étaient alors les maîtres de l'art. Ils emplissaient l'empire mourant de leurs cris. Le chrétien Ozone, avec son Kenton nuptial et son poème abondant et paré de la Moselle. Rutilius, avec ses hymnes à la gloire de Rome, ses anathèmes contre les juifs et contre les moines, son itinéraire d'Italie en Gaule, où il arrive à rendre certaines expressions de la vue, la vague des paysages reflétés dans l'eau, le mirage des vapeurs et l'envolée des brumes entourant les monts. Claudien, une sorte d'avatar de Lucain, qui domine tout le IVe siècle avec le terrible clairon de ses vers. Un poète forgeant un hexamètre éclatant et sonore, frappant dans des gerbes d'étincelles l'épithète d'un coup sec, atteignant une certaine grandeur, soulevant son œuvre d'un puissant souffle. Et dans l'Empire d'Occident, qui s'effondre de plus en plus, dans le gâchis des égorgements réitérés qui l'entourent, dans la menace perpétuelle des barbares qui se pressent maintenant en foule aux portes de l'Empire dont les gonds craquent, il ranime l'Antiquité, chante l'enlèvement de Proserpine, plaque ses couleurs vibrantes, passe avec tous les feux allumés dans l'obscurité qui envahit le monde. Le paganisme revit en lui, sonnant sa dernière fanfare, élevant son dernier grand poète au-dessus du christianisme qui va désormais submerger entièrement la langue et qui va pour toujours maintenant rester seul maître de l'art avec Paulin, l'élève d'Ozone, le prêtre espagnol Juvincus, qui paraphrase en vers les évangiles, Victorin, l'auteur des Maccabées, Sanctus Burdigalensis, qui dans une églogue imitée de Virgile, fait déplorer aux pâtres Égon et Bucullus les maladies de leurs troupeaux, et toute la série des saints, Hilaire de Poitiers, le défenseur de la foi de Nicée, l'Athanase de l'Occident, ainsi qu'on l'appelle, Ambroise, l'auteur d'indigestes homélies, l'ennuyeux Cicéron chrétien, Damase, le fabricant d'épigrammes lapidaires, Jérôme, le traducteur de la Vulgate et son adversaire, Vigilantius de Comminges, qui attaque le culte des saints, l'abus des miracles, les jeûnes, et prêche déjà avec des arguments que les âges se répéteront contre les vœux monastiques et le célibat des prêtres. Enfin, au Ve siècle, Augustin, évêque d'Hippone. Celui-là, des Essates ne le connaissaient que trop, car il était l'écrivain le plus réputé de l'Église, le fondateur de l'orthodoxie chrétienne, celui que les catholiques considèrent comme un oracle, comme un souverain maître. Aussi ne l'ouvrait-il plus, bien qu'il eût chanté dans ses confessions le dégoût de la terre et que sa piété gémissante eût dans sa cité de Dieu essayé d'apaiser l'effroyable détresse du siècle par les sédatives promesses de destinée meilleure. Au temps où il pratiquait la théologie, il était déjà là, sous de ses prédications et de ses jérémiades, de ses théories sur la prédestination et sur la grâce et de ses combats contre les schismes. Il aimait mieux feuilleter le Psychomachia de Prudence, l'inventeur du poème allégorique qui, plus tard, sévira sans arrêt au Moyen-Âge, et les œuvres de Sidoine Apollinaire, dont la correspondance lardée de saillies, de pointes, d'archaïsmes, d'énigmes, le tentait. Volontiers, il relisait les panégyriques où cet évêque invoque, à l'appui de ses vaniteuses louanges, les déités du paganisme, et malgré tout, il se sentait infaible pour les affectations et les sous-entendus de ces poésies fabriquées par un ingénieux mécanicien qui soigne sa machine, huile ses rouages, en invente au besoin de compliqués et d'inutiles. Après Sidoine, il fréquentait encore le panégyriste Mérobonus. Cédulius, l'auteur de poèmes rimés et d'hymnes abécédaires, dont l'Église s'est approprié certaines parties pour les besoins de ses offices, Marius Victor, dont le ténébreux traité sur la perversité des mœurs s'éclaire çà et là de vers luisants comme du phosphore, Paulin de Pella, le poète du grelottant Eucharisticon, Orientius, l'évêque d'Auch, qui dans les distiques de ses monitoires invective la licence des femmes dont il prétend que les visages perdent les peuples. L'intérêt que portait des Essaintes à la langue latine ne faiblissait pas, maintenant que, complètement pourrie, elle pendait, perdant ses membres, coulant son pu, gardant à peine dans toute la corruption de son corps quelques parties ferbes que les chrétiens détachaient afin de les mariner dans la saumure de leur nouvelle langue. La seconde moitié du Ve siècle était venue, l'épouvantable époque où d'abominables chaos bouleversaient la terre. Les barbares saccageaient la Gaule, Rome paralysée, mise au pillage par les Visigoths, sentait sa vie se glacer, voyait ses parties extrêmes, l'Occident et l'Orient, se débattre dans le sang, s'épuiser de jour en jour. Dans la dissolution générale, dans les assassinats de César qui se succèdent, dans le bruit des carnages qui ruissellent d'un bout de l'Europe à l'autre, un effrayant hourra retentit, étouffant les clameurs, couvrant les voix. Sur la rive du Danube, des milliers d'hommes plantés sur de petits chevaux, enveloppés de casques de peau de rat, des tartares affreux, avec d'énormes têtes, des nez écrasés, des mentons ravinés de cicatrices et de balafres, des visages de jaunisse dépouillés de poils, se précipitent ventre à terre, enveloppent d'un tourbillon les territoires des bas empires. Tout disparut dans la poussière des galops, dans la fumée des incendies. Les ténèbres se firent, et les peuples consternés tremblèrent, écoutant passer avec un fracas de tonnerre l'épouvantable trombe. La borde des Huns rasa l'Europe, se rua sur la Gaule, s'écrasa dans les plaines de Châlons, où Aétius lapida une incroyable charge. La plaine, gorgée de sang, moutonna comme une mer de pourpre. 200 000 cadavres barrèrent la route, brisèrent l'élan de cette avalanche qui, déviée, tomba éclatant en coups de foudre sur l'Italie, où les villes exterminées flambèrent comme des meules. L'Empire d'Occident croula sous le choc. La vie agonisante qu'il traînait dans l'imbécilité et dans l'ordure s'éteignit. La fin de l'univers semblait d'ailleurs proche. Les cités oubliées par Attila étaient décimées par la famine et par la peste. Le latin parut s'effondrer à son tour sous les ruines du monde. Des années s'écoulèrent. Les idiomes barbares commençaient à se régler, à sortir de leur gangue, à former de véritables langues. Le latin, sauvé dans la débâcle par les cloîtres, se confina parmi les couvents et parmi les cures. Çà et là, quelques poètes brillèrent, lents et froids, l'Africain Dracontius avec son Hexaméron, Claudius Mamère avec ses poésies liturgiques, Avitus de Vienne, puis des biographes tels qu'Elnodius, qui raconte les prodiges de saint Épiphane, le diplomate perspicace et vénéré, et le probe et vigilant pasteur, tels qu'Eugippe, qui nous a retracé l'incomparable vie de saint Séverin, cet ermite mystérieux, cet humble ascète apparu, semblable à un ange de miséricorde aux peuples éplorés, fous de souffrances et de peurs, des écrivains tels que Véranius du Gévaudan, qui prépara un petit traité sur la continence, tels qu'Aurélien et Féréolus, qui compilèrent des canons ecclésiastiques, et des historiens tels que Rotherius d'Agde, fameux par une histoire perdue des Huns. Les ouvrages des siècles suivants se clairsemaient dans la bibliothèque de Des Esseintes. Le VIe siècle était cependant encore représenté par Fortuna, l'évêque de Poitiers, dont les hymnes et la Vexilla Regis, taillés dans la vieille charogne de la langue latine, épicés par les aromates de l'Église, le hantaient à certains jours. Par Boès, le vieux Grégoire de Tours et Jordanès, puis au VIIe et VIIIe siècle, comme, en sus de la basse latinité des chroniqueurs, des Frédégard et des Paul Diacre, et des poésies contenues dans l'antiphonaire de Bangor, dont il regardait parfois l'hymne alphabétique et monorhyme chanté en l'honneur de saint Comgile, la littérature se confinait presque exclusivement dans des biographies de saints, dans la légende de Saint Columban, écrite par le cénobite Jonas, et celle du bienheureux Cuthbert, rédigée par Bède le Vénérable, sur les notes d'un moine anonyme de Lüdisfarne. Il se bornait à feuilleter, dans ses moments d'ennui, l'œuvre de ses hagiographes, et à relire quelques extraits de la vie de Sainte Rusticula et de Sainte Radegonde, relatés l'une par Défensorius, synodite de Ligugé, et l'autre par la modeste et la naïve Bonovidia, religieuse de Poitiers. Mais de singuliers ouvrages de la littérature latine, anglo-saxonne, l'alléchaient davantage. C'était toute la série des énigmes d'Adelme, de Tartwin, de Zeb, ses descendants de Symphosius, et surtout les énigmes composées par Saint Boniface en des strophes acrostiches dont la solution se trouvait donnée par les lettres initiales des vers. Son attirance diminuait avec la fin de ces deux siècles. Peu ravi en somme par la pesante masse des latinistes carlovingiens, les Alcuins, les Éginards, il se contentait, comme spécimen de la langue au IXe siècle, des chroniques de l'anonyme de Saint-Gall, de Friculf et de Réginon, du poème sur le siège de Paris, tissé par Abbo le Courbé, de l'Ortulus, le poème didactique du bénédictin Walfrid Strabo, dont le chapitre consacré à la gloire de la citrouille, symbole de la fécondité, le mettait en liesse. Du poème d'Ernold Lenoir, célébrant les exploits de Louis le Débonnaire, un poème écrit en hexamètre régulier, dans un style austère, presque noir, dans un latin de fer trempé dans les eaux monastiques, avec ça et là des pailles de sentiment dans le dur métal. Du De Virius Barbarum, le poème de Marcellus Floridus, qui le délectait particulièrement par ses recettes poétiques et les très étranges vertus qu'il prête à certaines plantes, à certaines fleurs. À l'aristologe, par exemple, qui mélangeait à de la chair de bœuf et placée sur le bas-ventre d'une femme enceinte, l'a fait irrémédiablement accoucher d'un enfant mâle. À la bourrache, qui, répandue en infusion dans une salle à manger, égaie les convives. À la pivoine, dont la racine broyée guérit à jamais du haut mal, et au fenouil, qui, posé sur la poitrine d'une femme, clarifie ses os et stimule l'indolence de ses périodes. À part quelques volumes spéciaux, inclassés, modernes ou sans date, certains ouvrages de cabale, de médecine et de botanique. Certains tomes dépareillés de la patrologie de Migne, renfermant des poésies chrétiennes introuvables, et de l'anthologie des petits poètes latins de Wamsdorf, à part le Mercius, le manuel d'érotologie classique de Forber, la moichéologie et les diaconales à l'usage des confesseurs, qui dépoussetaient à de rares intervalles, sa bibliothèque latine s'arrêtait au commencement du Xe siècle. Et en effet, la curiosité, la naïveté compliquée du langage chrétien avaient elles aussi sombré. Le fatras des philosophes et des scoliastes, la logomachie du Moyen-Âge allait régner en maître. L'amas de suite des chroniques et des livres d'histoire, les saumons de plomb des cartulaires allaient s'entasser et la grâce balbutiante, la maladresse parfois exquise des moines mettant en un pieux ragoût les restes poétiques de l'Antiquité étaient mortes. Les fabriques de verbes aux sucs épurés, de substantifs sentant l'encens, d'adjectifs bizarres taillés grossièrement dans l'or avec le goût barbare et charmant des bijoux gots, étaient détruites. Les vieilles éditions, choyées par des enceintes, cessaient. Et, en un saut formidable de siècles, les livres s'étageaient maintenant sur les rayons, supprimant la transition des âges, arrivant directement à la langue française du présent siècle. Chapitre 4. Une voiture s'arrêta vers une fin d'après-midi devant la maison de Fontenay. Comme Des Esseintes ne recevait aucune visite, comme le facteur ne se hasardait même pas dans ces parages inhabités, puisqu'il n'avait à lui remettre aucun journal, aucune revue, aucune lettre, les domestiques hésitèrent, se demandant s'il fallait ouvrir. Puis, au carillon de la sonnette, lancé à toute volée contre le mur, ils se hasardèrent à tirer le Judas incisé dans la porte, et ils aperçurent un monsieur dont toute la poitrine était couverte du col au ventre par un immense bouclier d'or. Ils avertirent leur maître qui déjeunait. « Oh, parfaitement, introduisez, » fit-il, car il se souvenait d'avoir autrefois donné, pour la livraison d'une commande, son adresse à un lapidaire. Le monsieur salua, déposa dans la salle à manger sur le parquet de pitchpin son bouclier qui oscilla, se soulevant un peu, allongeant une tête serpentine de tortue qui, soudain effaré, rentra sous sa carapace. Cette tortue était une fantaisie venue à Des Esseintes quelque temps avant son départ de Paris. Regardant un jour un tapis d'Orient à reflets et suivant les lueurs argentées qui couraient sur la trame de la laine, jaune aladdin et violet prune, il s'était dit « Il serait bon de placer sur ce tapis quelque chose qui remuât et dont le ton foncé aiguisa la vivacité de ses teintes. » Possédé par cette idée, il avait vagué au hasard des rues, était arrivé au palais royal, et devant la vitrine de chevet, s'était frappé le front. Une énorme tortue était là, dans un bassin. Il l'avait achetée. Puis, une fois abandonnée sur le tapis, il s'était assis devant elle, et il l'avait longuement contemplée en clignant de l'œil. Décidément, la couleur tête de nègre, le ton de sienne crue de cette carapace, salissait les reflets du tapis sans les activer. Les lueurs dominantes de l'argent étincelaient maintenant à peine, rampant avec les tons froids du zinc écorché sur les bords de ce test dur et terne. Il se rongea les ongles, cherchant les moyens de concilier ces mésalliances, d'empêcher le divorce résolu de ses tons. Il découvrit enfin que sa première idée, consistant à vouloir attiser les feux de l'étoffe par le balancement d'un objet sombre mis dessus, était fausse. En somme, ce tapis était encore trop voyant, trop pétulant, trop neuf. Les couleurs ne s'étaient pas suffisamment émoussées et amoindries. Il s'agissait de renverser la proposition, d'amortir les tons, de les éteindre par le contraste d'un objet éclatant, écrasant, tout autour de lui, jetant de la lumière d'or sur de l'argent pâle. Ainsi posée, la question devenait plus facile à résoudre. Il se détermina en conséquence à faire glacer d'or la cuirasse de la tortue. Une fois rapporté de chez le praticien, qui la prit en pension, la bête fulgura comme un soleil, rayonna sur le tapis dont les teintes repoussées fléchirent avec des irradiations de pavor, voix visigoth au squam imbriqué par un artiste d'un goût barbare. Des Esseintes fut tout d'abord enchanté de cet effet, puis il pensa que ce gigantesque bijou n'était qu'ébauché, qu'il ne serait vraiment complet qu'après qu'il aurait été incrusté de pierres rares. Il choisit dans une collection japonaise un dessin représentant un essaim de fleurs partant en fusée d'une mastige, l'emporta chez un joaillier, esquissa une bordure qui enfermait ce bouquet dans un cadre ovale, et il fit savoir au lapidaire stupéfié que les feuilles, que les pétales de chacune de ces fleurs seraient exécutées en pierrerie et montées dans l'écaille même de la bête. Le choix des pierres l'arrêta. Le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt. Les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent des rutilantes flammes et ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui abordent les fanaux de ces deux couleurs le long des tempes. Quant aux topazes brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace. D'un autre côté, bien que l'église ait conservé à l'améthyste un caractère sacerdotal, tout à la fois onctueux et grave, cette pierre n'est-elle aussi galvaudée aux oreilles sanguines et aux mains tubuleuses des bouchères qui veulent pour un prix modique se parer de vrais et pesants bijoux. Seul, parmi ces pierreries, le saphir a gardé des feux inviolés par la sottise industrielle et pécuniaire. Ces étincelles grésillant sur une eau limpide et froide ont en quelque sorte garanti de toute souillure sa noblesse discrète et hautaine. Malheureusement, aux lumières, ces flammes fraîches ne crépitent plus. L'eau bleue rentre en elle-même, semble s'endormir pour ne se réveiller en pétillant qu'au point du jour. Décidément, aucune de ces pierreries ne contentait des esseintes. Elles étaient d'ailleurs trop civilisées et trop connues. Ils firent ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus bizarres, finit par trier une série de pierres réelles et factices, dont le mélange devait produire une harmonie fascinatrice et déconcertante. Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs. Les feuilles furent serties de pierreries d'un vert accentué et précis, de chrysobéryl vert asperge, de péridot vert poireau, d'olivine vert olive, et elles se détachèrent de branches en almadine et en ouahorite, d'un rouge violacé, jetant des paillettes d'un éclat sec, de même que ces micas de Tartre qui luisent dans l'intérieur des futailles. Pour les fleurs, isolées de la tige, éloignées du pied de la gerbe, il usa de la cendre bleue, mais il repoussa formellement cette turquoise orientale qui se met en broche et en bague et qui fait avec la banale perle et l'odieux corail les délices du menu peuple. Il choisit exclusivement des turquoises de l'Occident, des pierres qui ne sont à proprement parler qu'un ivoire fossile imprégné de substances cuivreuses et dont le bleu céladon est engorgé, opaque, sulfureux, comme jauni de bile. Cela fait, il pouvait maintenant chasser les pétales de ses fleurs épanouies au milieu du bouquet, de ses fleurs les plus voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux transparents, aux lueurs vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et aigres. Il les composa uniquement d'yeux de chat de Ceylan, de cymophane et de saphirine. Ces trois pierres dardaient en effet des scintillements mystérieux et pervers, douloureusement arrachés du fond glacé de leur eau trouble. L'œil de chat d'un gris verdâtre, strié de veines concentriques qui paraissent remuer, se déplaçait à tout moment selon les dispositions de la lumière. Le cymophane, avec des moires azurées courant sur la teinte laiteuse qui flotte à l'intérieur, la saphirine qui allume des feux bleuâtres de phosphore sur un fond de chocolat brun sourd, et le lapidaire prenait note à mesure des endroits où devaient être incrustées les pierres. Et la bordure de la carapace, dit-il à des esseintes. Celui-ci avait d'abord songé à quelques opales et à quelques hydrophanes, mais ces pierres intéressantes par l'hésitation de leur couleur, par le doute de leur flamme, sont par trop insoumises et infidèles. L'opale a une sensibilité toute rhumatismale. Le jeu de ses rayons s'altère suivant l'humidité, la chaleur ou le froid. Quant à l'hydrophane, Elle ne brûle que dans l'eau et ne consent à allumer sa braise grise qu'alors qu'on la mouille. Il se décida enfin pour des minéraux dont les reflets devaient s'alterner. Pour l'hyacinthe de Compostelle, rouge acajou, l'algue marine vert glauque, le rubis balai rose vinaigre et le rubis de Sudermanie ardoise pâle. Leur faible chatoiement suffisait à éclairer les ténèbres de l'écaille et laissait sa valeur à la floraison des pierreries qu'ils entouraient d'une mince guirlande de feux vagues. Des essaintes regardaient maintenant, blottir en un coin de la salle à manger, la tortue qui rutilait dans la pénombre. Il se sentit parfaitement heureux. Ses yeux se grisaient à ces resplendissements de corolles en flammes sur un fond d'or. Puis, contrairement à son habitude, il avait appétit et il trempait ses rôties enduites d'un extraordinaire beurre dans une tasse de thé, un impeccable mélange de Sia Fayoun, de Moi Yutan et de Kanski, des thés jaunes venus de Chine en Russie par d'exceptionnelles caravanes. Il buvait ce parfum liquide dans ces porcelaines de la Chine dites coquilles d'œufs, tant elles sont diaphanes et légères, et de même qu'il n'admettait que ces adorables tasses, il ne se servait également en fait de couvert que d'authentiques vermeils, un peu dédorés, alors que l'argent apparaît un tantinet sous la couche fatiguée de l'or, et lui donne ainsi une teinte d'une douceur ancienne, toute épuisée, toute moribonde. Après qu'il eut bu sa dernière gorgée, il rentra dans son cabinet et fit apporter par le domestique la tortue qui s'obstinait à ne pas bouger. La neige tombait. Aux lumières des lampes, des herbes de glace poussées derrière les vitres bleuâtres et le givre, pareilles à du sucre fondu, scintillaient dans les culs de bouteilles des carreaux tiquetés d'or. Un silence profond enveloppait la maisonnette engourdie dans les ténèbres. Des essaintes rêvassaient. Le brasier, chargé de bûches, emplissait l'effluve brûlant la pièce. Il entr'ouvrit la fenêtre. Ainsi qu'une haute tenture de contre-hermine, le ciel se levait devant lui, noir et moucheté de blanc. Un vent glacial courut, accéléra le volet perdu de la neige, intervertit l'ordre des couleurs. La tenture héraldique du ciel se retourna, devint une véritable hermine blanche, mouchetée de noir à son tour, par les points de nuit dispersés entre les flocons. Il referma la croisée. Ce brusque passage, sans transition, de la chaleur torride au frimas du plein hiver, l'avait saisi. Il se recroquevilla près du feu et l'idée lui vint d'avaler un spiritueux qui le réchauffait. Il s'en fut dans la salle à manger, où, pratiquée dans l'une des cloisons, une armoire contenait une série de petites tonnes rangées côte à côte sur de minuscules chantiers de bois de santal percés de robinets d'argent au bas du ventre. Il appelait cette réunion de barils à liqueur son orgue à bouche. Une tige pouvait rejoindre tous les robinets, les asservir à un mouvement unique, de sorte qu'une fois l'appareil en place, il suffisait de toucher un bouton dissimulé dans la boiserie pour que toutes les cannelles, tournées en même temps, remplissent de liqueur les imperceptibles gobelets placés au-dessous d'elles. L'orgue se trouvait alors ouvert. Les tiroirs étiquetés, flûte, corps, voix céleste, étaient tirés, prêts à la manœuvre. Des essaintes buvaient une goutte ici, là, se jouaient des symphonies intérieures, arrivaient à se procurer dans le gosier des sensations analogues à celles que la musique verse à l'oreille. Du reste, chaque liqueur correspondait selon lui comme goût au son d'un instrument. Le curaçao sec, par exemple, à la clarinette, dont le chant est aigrelet et velouté. Le cumel au hautbois, dont le timbre sonore nasille. La menthe et l'anisette à la flûte, tout à la fois sucrée, poivrée, piaulante et douce. Tandis que pour compléter l'orchestre, le kirsch sonne furieusement de la trompette. Le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents éclats de pistons et de trombones. L'eau de vie de Mars fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas, pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse, frappés à tour de bras dans la peau de la bouche par les rakis de Kyo et les mastiques. Il pensait aussi que l'assimilation pouvait s'étendre, que des quatuors d'instruments à cordes pouvaient fonctionner sous la voûte palatine, avec le violon représentant la vieille eau-de-vie, fumeuse et fine, aiguë et frêle, avec l'alto, simulé par le rhum plus robuste, plus gonfrant, plus sourd, avec le vespetro, déchirant et prolongé, mélancolique et caressant comme un violoncelle, avec la contrebasse corsée, solide et noire, comme un pur et vieux bitter. On pouvait même, si l'on voulait, former un quintet, adjoindre un cinquième instrument, la harpe, qui imitait, par une vraisemblable analogie, la saveur vibrante, la note argentine, détachée et grêle du cumin sec. La similitude se prolongeait encore. Des relations de ton existaient dans la musique des liqueurs. Ainsi, pour ne citer qu'une note, la bénédictine figure pour ainsi dire le ton mineur de ce ton majeur des alcools que les partitions commerciales désignent sous le signe de chartreuse verte. Ces principes, une fois admis, il était parvenu, grâce à d'érudites expériences, à se jouer sur la langue de silencieuses mélodies, de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre dans sa bouche des solides mentes des duos de Vespetro et de Rhum. Il arrivait même à transférer dans sa mâchoire de véritables morceaux de musique, suivant le compositeur pas à pas, rendant sa pensée, ses effets, ses nuances, par des unions ou des contrastes voisins de liqueurs, par d'approximatifs et savants mélanges. D'autres fois, il composait lui-même des mélodies, exécutait des pastorales avec le bénin cassis qui lui faisait roulader dans la gorge des chants perlés de rossignol, avec le tendre cacao chouva qui fredonnait de sirupeuses bergerades, telles que les romances d'Estelle et les « Ah, vous dirais-je maman » du temps jadis. Mais ce soir-là, Des Esseintes n'avait nulle envie d'écouter le goût de la musique. Il se borna à enlever une note au clavier de son orgue en emportant un petit gobelet qu'il avait préalablement rempli d'un véridique whisky d'Irlande. Il se renforça dans son fauteuil et huma lentement ce suc fermenté d'avoine et d'orge. Un fumet prononcé de créosote lui en puantit la bouche. Peu à peu, en buvant, sa pensée, suivie l'impression maintenant ravivée de son palais, emboîta le pas à la saveur du whisky, réveilla par une fatale exactitude d'odeur des souvenirs effacés depuis des ans. Ce fleur féniqué, âcre, lui remémorait forcément l'identique senteur dont il avait eu la langue pleine au temps où les dentistes travaillaient dans sa gencive. Une fois lancé sur cette piste, sa rêverie, d'abord éparse sur tous les praticiens qu'il avait connus, se rassembla et convergea sur l'un d'entre eux dont l'excentrique rappel s'était plus particulièrement gravé dans sa mémoire. Il y avait de cela 3 années. Pris au milieu d'une nuit d'une abominable rage de dents, il se tamponnait la joue, butait contre les meubles, arpentait, semblable à un fou, sa chambre. C'était une molaire déjà plombée. Aucune guérison n'était possible. La clé seule des dentistes pouvait remédier au mal. Il attendait, tout enfiévré, le jour, résolu à supporter les plus atroces des opérations, pourvu qu'elles missent fin à ses souffrances. Tout en se tenant la mâchoire, il se demandait comment faire. Les dentistes qui le soignaient étaient de riches négociants qu'on ne voyait point à sa guise. Il fallait convenir avec eux de visites, d'heures, de rendez-vous. « C'est inacceptable, je ne puis différer plus longtemps, » disait-il. Alors il se décida à aller chez le premier venu, à courir chez un quenottier du peuple, un de ces gens à poigne de fer qui, s'ils ignorent l'art, bien inutile d'ailleurs de panser les caries et d'obturer les trous, savent extirper avec une rapidité sans pareil les chicots les plus tenaces. Chez ceux-là, c'est ouvert au petit jour et on n'attend pas. 7 heures sonnèrent enfin. Il se précipita hors de chez lui et, se rappelant le nom connu d'un mécanicien qui s'intitulait dentiste populaire et logeait au coin d'un quai, il s'élança dans les rues en mordant son mouchoir, en renfonçant ses larmes. Arrivé devant la maison, reconnaissable à un immense écriteau de bois noir où le nom de Gatonax s'étalait en énormes lettres couleur de potiron et en 2 petites armoires vitrées où des dents de pâte étaient soigneusement alignées dans des gencives de cire rose, reliées entre elles par des ressorts mécaniques de laiton, il haleta la sueur aux tempes. Une transe horrible lui vint, un frisson lui glissa sur la peau. Un apaisement eut lieu. La souffrance s'arrêta, la dent se tut. Il restait stupide sur le trottoir. Il s'était enfin roidi contre l'angoisse, avait escaladé un escalier obscur, grimpé 4 à 4 jusqu'au 3e étage. Là, il s'était trouvé devant une porte où une plaque d'émail répétait, inscrit avec des lettres d'un bleu céleste, le nom de l'enseigne. Il avait tiré la sonnette, puis épouvanté par les larges crachats rouges qu'il apercevait collés sur les marches, il fit volte-face, résolu à souffrir des dents toute sa vie, quand un cri déchirant perça les cloisons, emplit la cage de l'escalier et le cloua d'horreur sur place, en même temps qu'une porte s'ouvrit et qu'une vieille femme le pria d'entrer. La honte l'avait emporté sur la peur. Il avait été introduit dans une salle à manger. Une autre porte avait claqué, donnant passage à un terrible grenadier vêtu d'une redingote et d'un pantalon noir en bois. Des esseintes le suivit dans une autre pièce. Ses sensations devenaient dès ce moment confuses. Vaguement, il se souvenait de s'être affaissé en face d'une fenêtre, dans un fauteuil, d'avoir balbutié en mettant un doigt sur sa dent. « Elle a déjà été plombée, j'ai peur qu'il n'y ait rien à faire. » Oh, l'homme avait immédiatement supprimé ses explications en lui enfonçant un index énorme dans la bouche. Puis, tout en grommelant sous ses moustaches vernies en croc, il avait pris un instrument sur une table. Alors la grande scène avait commencé. Cramponné au bras du fauteuil, des esseintes avaient senti dans la joue du froid, puis ses yeux avaient vu 36 chandelles, et il s'était mis, souffrant des douleurs inouïes, à battre des pieds et à bêler, ainsi qu'une bête qu'on assassine. Un craquement s'était fait entendre, la molaire se cassait en venant. Il lui avait alors semblé qu'on lui arrachait la tête, qu'on lui fracassait le crâne. Il avait perdu la raison, avait hurlé de toutes ses forces, s'était furieusement défendu contre l'homme qui se ruait de nouveau sur lui comme s'il voulait lui entrer son bras jusqu'au fond du ventre, s'était brusquement reculé d'un pas et, levant le corps attaché à la mâchoire, l'avait laissé brutalement retomber sur le derrière, dans le fauteuil, tandis que debout, emplissant la fenêtre, il soufflait, brandissant au bout de son davier une dent bleue où pendait du rouge. Anéanti, des essaims avaient dégobillé du sang plein une cuvette, refusé d'un geste à la vieille femme qui rentrait l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal, et il avait fui, payant 2 francs, lançant à son tour des crachats sanglants sur les marches, et il s'était retrouvé dans la rue, joyeux, rajeuni de 10 ans, s'intéressant aux moindres choses. « Bon, fit-il, attristé par l'assaut de ses souvenirs. Et il se leva pour rompre l'horrible charme de cette vision. Et revenu dans la vie présente, il s'inquiéta de la tortue. Elle ne bougeait toujours point. Il la palpa. Elle était morte. Sans doute habituée à une existence sédentaire, à une humble vie passée sous sa pauvre carapace, elle n'avait pu supporter le luxe éblouissant qu'on lui imposait, la rutilante chape dont on l'avait vêtue, et les pierreries dont on lui avait pavé le dos comme un ciboire.